Dans la liturgie de ce jour, on retrouve les deux émotions qui font la toile de fond des présentes journées pascales où nous ne parlons plus que du virus. Angoisse et tristesse d'une part, amour, communion, solidarité d'autre part. Il y a de l'angoisse et de la tristesse dans ce printemps, c'est vrai. Comment irait-il autrement avec tous ces malades par milliers dans le monde, avec des parents, des amis proches ou lointains confinés dans leur solitude, soudain inatteignables, peut-être enfermés dans l'angoisse, dans la peur de l'inconnu, dans la crainte de perdre leur vie, ou celle d'un être cher, sinon de perdre une situation, un travail, voire un toit. Il y a aussi de l'angoisse et de la tristesse au milieu de ce repas festif de Pâques qui réunit une dernière fois les apôtres, mais ils l'ignorent, et leur maître. Car au milieu du repas, Jésus annonce que l'un des disciples présents autour de la table va bientôt le trahir. Et voilà qu'entre eux, encore, à cette heure décisive, ils en arrivent à se disputer pour savoir lequel parmi eux est le plus grand. Jésus va le leur répéter encore une fois, que le plus grand parmi vous prenne la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. N'en a-t-il pas à lui-même donné l'exemple ce soir, en leur lavant les pieds, ce qui était, dans une maison patricienne de l'époque, la tâche du dernier des serviteurs d'un esclave. Et là, nous touchons soudain au message de lumière que nous offre la liturgie de ce jeudi saint. C'est par un geste d'amour inattendu, inouï dans la société de son temps, que Jésus inaugure les jours de sa Pâque, son passage vers le Père. Si la table du jeudi saint est festive, ornée de lumière, peut-être de fleurs chez vous et d'une belle vaisselle, c'est parce que le moment de ce repas est bien celui de la plus intime rencontre, de la plus profonde et fraternelle communion, même si les disciples sur le moment ne s'en sont pas rendus vraiment compte. Jésus nous ouvre à cet instant son testament, c'est-à-dire son témoignage. Et c'est une action de grâce adressée à son Père, action de grâce en grec, Eucharistie. Tristesse et anxiété à l'heure de ce repas, mais aussi amour et solidarité. Tels sont les sentiments contrastés avec lesquels nous entrons dans ces grands jours de la Pâque. Non pas ma tristesse et mon anxiété, qui serait un repliement sur soi, mais tristesse et anxiété de tous nos frères et sœurs en humanité. Non seulement celle des chrétiens qui s'apprêtent à faire mémoire de la Pâque, en un moment bien difficile, il est vrai, mais de tous ceux et celles, quelles que soient leurs croyances, leurs opinions, leurs convictions, qui en ce monde souffrent de maladies, de solitude, de précarité, de trahison ou d'abandon. Tristesse et anxiété de la création qui ne cesse de gémir dans les douleurs de son enfantement. Cependant, le climat pesant de cette soirée est traversé par les gestes et les paroles de l'amour inconditionnel de Jésus, lui le futur condamné à mort, qui ouvre ici pleinement son cœur à ses disciples. « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. » Demain, en s'élevant sur le monde, la croix assemblera ces deux dimensions de notre existence humaine, la mort et l'amour, rassemblant toutes nos souffrances et, si pauvres qu'elles soient, notre foi, notre confiance au Dieu qui se révèle en silence, au service de tous les hommes. Célébrer la Pâque du Seigneur, c'est pour nous une invitation à entrer dans un passage. Passage, c'est le mot hébreu que nous avons traduit par Pâques, passage vers le Père. Et nous y entrons peut-être en solitude cette année en raison de ce confinement obligé par la pandémie, mais néanmoins en communion peut-être d'autant plus forte avec tous ceux, toutes celles qui partagent notre foi et qui mettent leur confiance en Dieu. Et aussi, bien sûr, avec toutes celles et tous ceux qui sont morts et que nous portons comme des vivants dans notre cœur et dans nos prières. Invitation à rencontrer la présence de Dieu au creux de notre histoire quotidienne, au creux des méandres du temps avec notre corps, notre esprit et cette âme en nous qui est le fond même du mystère de notre être. Et pour entrer dans la Pâque, l'évangile de Jean plante le décor. Il dessine les personnages et leur donne vie. Au centre se trouve Jésus, qui sait que son heure est venue, l'heure de ce grand passage qui va le mener de ce monde à son Père. Il sait d'où il vient, il sait où il va. Et Jésus nous fait comprendre qu'il a pleine conscience que tout est entre ses mains, que sa mission est d'entraîner avec lui le monde, la création, l'univers, chacun et chacune d'entre nous, vers le Père. Mais il y a aussi dans ce récit l'irruption du mal, de la souffrance, de la mort prochaine, représentée par la personne de Judas. Qu'il soit agent conscient ou non de ce mal, ça ne fait guère de différence. Il incarne ici, dans le récit, cette force de l'orgueil, de l'égoïsme, de méchanceté, d'avarice qui est toujours à l'œuvre dans le monde. Cette réalité du mal qui va mener l'innocent à la mort. Il y a aussi Pierre, sans doute généreux, mais prime sautier et souvent maladroit. Lui qui, comme beaucoup d'entre nous peut-être, est rempli d'amour pour Jésus, qui sait au fond de lui que c'est de Jésus qu'il tient sa vraie vie, mais qui comprend si mal sur le moment ce qui se passe. Dans ce grand tableau, comme dans la scène de Léonard de Vinci, les corps ne sont pas inertes, ils sont en mouvement. Jésus d'abord crée le mouvement, il se lève de table, il ôte ses vêtements, il prend un linge et une cuvette et il s'agenouille pour laver les pieds de ses disciples avec ses mains. Notre imagination est portée ici par toutes les représentations qui ont été faites de cette scène. Jésus à genoux, devant ses disciples, leur lavant les pieds, les essuyant soigneusement avec le linge. Mais soulignons l'aspect insolite de cette scène. Un homme, l'homme-Dieu, celui qui a tout entre ses mains et qui ouvre ses mains pour laver, essuyer, prendre soin des pieds endoloris de ceux qui ont marché tout le jour avec lui. Il s'est levé pour mieux s'agenouiller, s'incliner, s'abaisser. Ici résonne à nos oreilles l'hymne de saint Paul dans son épître aux Philippiens. Lui qui possédait depuis toujours la condition divine, il s'est lui-même dépouillé de tout ce qu'il avait, prenant la condition de serviteur, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Des gestes très simples que nous faisons tous un jour ou l'autre, peut-être pas nous laver les pieds, mais pour soulager une souffrance, langer des enfants, pour prendre soin de vieux parents, consoler une solitude, tenir la main d'un mourant, ou pour écrire une lettre d'amour, pour offrir un repas, une corbeille de fruits. Des gestes si simples qu'il n'y a rien à en dire, mais qui traduisent pourtant l'aujourd'hui de la présence de Dieu, ici et maintenant, à nos côtés, les mains ouvertes, accueillantes, caressantes, soignantes. Or, c'est avec de tels gestes que l'univers peut basculer. Ne cherchons plus au ciel dans les nuages, loin de nous la présence de Dieu et de son amour. Il suffit de baisser les yeux, de tendre l'oreille aux besoins de nos frères et de nos sœurs, et point n'est besoin de demander à Dieu de nous laver tout entier, car il se tient déjà à nos côtés et nous appelle ses amis. C'est bien là, dans ces gestes si simples, parfois pour nous si difficiles à accomplir, que se trouve la présence réelle de Jésus, le sacrement de son corps livré, de son sang versé, le sacrement du frère, de la sœur. Aujourd'hui, en l'absence d'une Eucharistie solennelle dans une église illuminée et fleurie, privée de communion sacramentelle, mais non pas de la communion fraternelle de l'Église invisible, regardons nos mains, songeons au service qu'elles n'ont pas su, pas pu rendre encore, et à tous les services nouveaux qu'elles pourraient accomplir demain. Il y a tant de manières d'aller au-devant les uns des autres, avec nos mains, tout simplement. Et nous répondrons ainsi au désir de Jésus. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous.